Chapitre 26. Le ménage d'un espion. Si le vénérable père Canquel, on l'appelait le père Canquel dans sa maison, était resté rue des Moineaux au quatrième étage, croyez qu'il avait trouvé, dans la disposition du local, des bizarreries qui favorisaient l'exercice de ses terribles fonctions. Sise au coin de la rue Saint-Roch, sa maison se trouvait sans voisinage d'un côté. Comme elle était partagée en deux portions, au moyen de l'escalier, il existait à chaque étage deux chambres complètement isolées. Ces deux chambres étaient situées du côté de la rue Saint-Roch. Au-dessus du quatrième étage s'étendaient des mansardes, dont l'une servait de cuisine et dont l'autre était l'appartement de l'unique servante du père Canquel, une Flamande nommée Kat, qui avait nourri Lydie. Le père Canquel avait fait sa chambre à coucher de la première des deux pièces séparées, et de la seconde son cabinet. Un gros mur mitoyen isolait ce cabinet par le fond. La croisée, qui voyait sur la rue des Moineaux, faisait face à un mur d'enconnure sans fenêtre. Or, comme toute la largeur de la chambre de Peyrade les séparait de l'escalier, les deux amis ne craignaient aucun regard, aucune oreille, en causant d'affaires dans ce cabinet fait exprès pour leur affreux métier. Par précaution, Peyrade avait mis un lit de paille, une thibaude et un tapis très épais dans la chambre de la Flamande sous prétexte de rendre heureuse la nourrice de son enfant. De plus, il avait condamné la cheminée en se servant d'un poêle dont le tuyau sortait par le mur extérieur, sur la rue Saint-Roch. Enfin, il avait étendu sur le carreau plusieurs tapis, afin d'empêcher les locataires de l'étage inférieur de saisir aucun bruit. Expert en moyens d'espionnage, il sondait le mur mitoyen, le plafond et le plancher une fois par semaine, et les visitait comme un homme qui veut tuer des insectes importuns. La certitude d'être là sans témoin ni auditeur avait fait choisir ce cabinet à Corentin pour salle de délibération quand il ne délibérait pas chez lui. Le logement de Corentin n'était connu que du directeur général de la police du royaume et de Peyrade. Il y recevait les personnages que le ministère ou le château prenait pour intermédiaire dans les circonstances graves, mais aucun agent, aucun homme en sous-ordre n'y venait, et il combinait les choses du métier chez Peyrade. Dans cette chambre, sans aucune apparence, se tramèrent des plans, se prirent des résolutions qui fourniraient d'étranges annales et des drames curieux, si les murs pouvaient parler. Là, s'analysèrent, de 1816 à 1826, d'immenses intérêts. Là se découvrirent dans leurs germes les événements qui devaient peser sur la France. Là, Peyrade et Corentin, aussi prévoyants mais plus instruits que Bellart, le procureur général, se disaient, dès 1819, si Louis XVIII ne veut pas frapper tel ou tel coup, se défaire de tel prince, il exècre donc son frère, il veut donc lui léguer une révolution. La porte de Peyrade était ornée d'une ardoise, sur laquelle il trouvait parfois des marques bizarres, des chiffres écrits à la craie. Cette espèce d'algèbre infernale offrait aux initiés des significations très claires. En face de l'appartement si mesquin de Peyrade, celui de Lydie était composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet de toilette. La porte de Lydie, comme celle de la chambre de Peyrade, était composée d'une tôle de 4 lignes d'épaisseur, placée entre 2 fortes planches en chêne, armées de serrures et d'un système de gonds qui les rendait aussi difficiles à forcer que des portes de prison. Aussi, quoique la maison fut une de ces maisons à aller, à boutique et sans portier, Lydie vivait-elle là sans avoir rien à craindre. la salle à manger, le petit salon, la chambre, dont toutes les croisées avaient des jardins aériens, était d'une propreté flamande et pleine de luxe. La nourrice flamande n'avait jamais quitté Lydie, qu'elle appelait sa fille. Toutes deux, elles allaient à l'église avec une régularité qui donnait du bonhomme Canquoël une excellente opinion à l'épicier royaliste établi dans la maison, au coin de la rue des Moineaux et de la rue Neuve-Saint-Roch, et dont la famille, la cuisine, les garçons, occupaient le premier étage et l'entresol. Au second étage vivait le propriétaire, et le troisième était loué depuis 20 ans par un lapidaire. Chacun des locataires avait la clé de la porte bâtarde. L'épicière recevait d'autant plus complaisément les lettres et les paquets adressés à ces trois paisibles ménages que le magasin d'épicerie était pourvu d'une boîte aux lettres. Sans ces détails, les étrangers et ceux à qui Paris est connu n'auraient pu comprendre le mystère et la tranquillité, l'abandon et la sécurité qui faisaient de cette maison une exception parisienne. Dès minuit, le père Canquoël pouvait ourdir toutes les trames, recevoir des espions et des ministres, des femmes et des filles, sans que qui que ce soit au monde s'en aperçût. Peyrade, de qui la Flamande avait dit à la cuisinière de l'épicier « il ne ferait pas de mal à une mouche », passait pour le meilleur des hommes. Il n'épargnait rien pour sa fille. Lydie, qui avait eu Schmuck pour maître de musique, était musicienne à pouvoir composer. Elle savait laver une sépia, peindre à la gouache et à l'aquarelle. Peyrade dînait tous les dimanches avec sa fille. Ce jour-là, le bonhomme était exclusivement père. Religieuse sans être dévote, Lydie faisait ses Pâques et allait à confesse tous les mois. Néanmoins, elle se permettait de temps en temps la petite partie de spectacle. Elle se promenait aux Tuileries quand il faisait beau. Tels étaient tous ses plaisirs, car elle menait la vie la plus sédentaire. Lydie, qui adorait son père, en ignorait entièrement les sinistres capacités et les occupations ténébreuses. Aucun désir n'avait troublé la vie pure de cet enfant si pur. Svelte, belle comme sa mère, douée d'une voix délicieuse, d'un minois fin, encadrée par de beaux cheveux blonds, elle ressemblait à ces anges plus mystiques que réels, posés par quelques peintres primitifs au fond de leur sainte famille. Le regard de ses yeux bleus semblait verser un rayon du ciel sur celui qu'elle favorisait d'un coup d'œil. Sa mine chaste, sans exagération d'aucune mode, exhalait un charmant parfum de bourgeoisie. Figurez-vous un vieux Satan, père d'un ange, et se rafraîchissant à ce divin contact, vous aurez une idée de Peyrade et de sa fille. Si quelqu'un eût sali ce diamant, le père aurait inventé, pour l'engloutir, un de ces formidables traquenards où se prirent, sous la Restauration, des malheureux qui portèrent leur tête sur l'échafaud. 1000 écus par an suffisaient à Lydie et à Cat, celle qu'elle appelait sa bonne. En entrant par le haut de la rue des Moineaux, Peyrade aperçut Contenson. Il le dépassa, monta le premier, entendit les pas de son agent dans l'escalier et l'introduisit avant que la Flamande n'eût mis le nez à la porte de sa cuisine. Une sonnette, que faisait partir une porte à claire-voie, placée au troisième étage, où demeurait le lapidaire, avertissait le locataire du troisième et du quatrième quand il montait quelqu'un pour eux. Il est inutile de dire que dès minuit, Peyrade cotonnait le battant de cette sonnette. « Qu'y a-t-il donc de si pressé, philosophe ?» Philosophe était le surnom que Peyrade donnait à Contenson et que méritait cette épictète des mouchards. « Mais il y a quelque chose, comme 10 000 à prendre. »« Qu'est-ce, politique ?»« Non, une niaiserie. Le baron de Nucingen, vous savez, ce vieux voleur patenté, hennit après une femme qu'il a vue au bois de Vincennes. il faut la lui trouver, ou il meurt d'amour. L'on a fait une consultation de médecin, hier, à ce que m'a dit son valet de chambre. Je lui ai déjà soutiré 1000 francs, sous prétexte de chercher l'infante. » Et Contenson raconta la rencontre de Nucingen et d'Esther, en ajoutant que le baron avait quelques renseignements nouveaux. « Va, dit Peyrade, nous lui trouverons sa Dulcinée. Dis-lui de venir en voiture ce soir aux Champs-Élysées, avenue Gabriel, au coin de l'allée de Marigny. » Peyrade mit Contenson à la porte et frappa chez sa fille comme il fallait frapper pour être admis. Il entra joyeusement, le hasard venait de lui jeter un moyen d'avoir enfin la place qu'il désirait. Il se plongea dans un bon fauteuil à la Voltaire, après avoir embrassé Lydie au front, et lui dit « Joue-moi quelque chose ». Lydie lui joua un morceau écrit pour le piano par Beethoven. « C'est bien joué cela, ma petite biche, » dit-il en prenant sa fille entre ses genoux. « Sais-tu que nous avons 21 ans ? Il faut se marier, car notre père a plus de 70 ans. « Je suis heureuse ici, » répondit-elle. « Tu n'aimes que moi, moi si laid, si vieux ?» demanda Peyrade. « Mais qui veux-tu donc que j'aime ?»« Je dîne avec toi, ma petite biche. Préviens-en 4. Je songe à nous établir, à prendre une place et à te chercher un mari digne de toi. Quelque bon jeune homme, plein de talent, de qui tu puisses être fière un jour. Je n'en ai vu qu'un encore qui m'ait plu pour mari.
Tu en as vu un ?
Oui, aux Tuileries, reprit Lydie. Il passait, il donnait le bras à la comtesse de Sérisy.
Il se nomme ?
Lucien de Rubempré. J'étais assise sous un tilleul avec 4, ne pensant à rien. Il y avait à côté de moi 2 dames qui se sont dit « Voilà Madame de Sérisy et le beau Lucien de Rubempré. » Moi, j'ai regardé le couple que ces 2 dames regardaient. « Ah, ma chère !» a dit l'autre, « il y a des femmes qui sont bien heureuses. On lui passe tout à celle-ci, parce qu'elle est née Ronquerolles et que son mari a le pouvoir. » « Mais ma chère, a répondu l'autre dame, « Lucien lui coûte cher. »« Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?»«
C'est des bêtises, comme en disent les gens du monde, » répondit Peyrade à sa fille d'un air de bonhomie. « Peut-être faisait-elle allusion à des événements politiques. »«
Enfin, vous m'avez interrogé, je vous réponds. Si vous voulez me marier, trouvez-moi un mari qui ressemble à ce jeune homme-là. »
« Enfant, répondit le père, la beauté chez les hommes n'est pas toujours le signe de la bonté. Les jeunes gens doués d'un extérieur agréable ne rencontrent aucune difficulté au début de la vie. Ils ne déploient alors aucun talent. Ils sont corrompus par les avances que leur fait le monde. Il faut leur payer plus tard les intérêts de leur qualité. Je voudrais te trouver ce que les bourgeois, les riches et les imbéciles laissent sans secours ni protection.
Qui, mon père ?
Un homme de talent inconnu. Mais va, mon enfant chéri, j'ai les moyens de fouiller tous les greniers de Paris et d'accomplir ton programme en présentant à ton amour un homme aussi beau que le mauvais sujet dont tu me parles, mais plein d'avenir, un de ces hommes signalés à la gloire et à la fortune. Oh, je n'y songeais point, je dois avoir un troupeau de neveux, et dans le nombre, il peut s'en trouver un digne de toi. Je vais écrire ou faire écrire en Provence. »
Chose étrange, en ce moment, un jeune homme, mourant de faim et de fatigue, venu à pied du département de Vaucluse, un neveu du père Canquel, entrait par la barrière d'Italie à la recherche de son oncle. Dans les rêves de la famille, à qui le destin de cet oncle était inconnu, Peyrade offrait un texte d'espérance. On le croyait revenu des Indes avec des millions. Stimulé par ses romans du coin du feu, ce petit neveu, nommé Théodose, avait entrepris un voyage de circumnavigation à la recherche de l'oncle fantastique.